C'est quand même un gros week-end, hein? Seulement, je prêche une fois par mois. Là, c'est 4 en 2 jours. C'est une bonne commande. Mais je pense qu'on a du bon temps ensemble. Hein? Y a-t-il une vie avant la mort? La réponse est oui. Je ne sais pas si vous l'avez compris jusqu'à maintenant, là, mais la réponse est oui. À travers l'écoute de Dieu qui nous révèle ces choses au fur et à mesure qu'on avance. Dans le travail aussi, Dieu est avec nous. Dans le don qu'on peut faire pour aider. Et là, on va toucher un sujet touché encore. Il semble que je suis le spécialiste des sujets touchés. Le conjoint. Le choix du conjoint. Ou pas. Je ne sais pas, moi, peut-être que vous avez le don de célibat. C'est possible. J'ai fait une gaffe un peu quand j'ai commencé vendredi soir parce que j'ai mis l'emphase sur le fait que moi et ma femme, on s'était rencontrés au camp GBU, puis c'était quasiment une place pour trouver un conjoint, puis tout ça. Puis... je veux pas que ça mette de pression sur personne. Le GBU, c'est pas un matchmaking contest, là. Donc, je tenais à faire cette petite rectification, puis je suis désolé si ça a mis une pression fausse là, sur certains d'entre vous. Quelques-unes de vos questions par rapport au sujet qu'on va aborder en ce moment, que j'aimerais vous lire. Sommes-nous dans une dynamique de devenir quelque chose qui nous fait courir comme des perdus et nous fait voir l'engagement et la vulnérabilité à l'autre comme des menaces, ce qui signifierait qu'un mariage est ultimement impossible? Wow! Il y a des commentaires profonds. Une autre. Comment peut-on combler un profond besoin de proximité émotionnelle en Dieu? Sachant qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'un conjoint le comble pleinement. Wow! Il n'est pas bon à l'homme d'être seul. Alors comment choisir celui avec qui passer le reste de ma vie? Je suis très préoccupé par ce sujet. Puisqu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, cela veut-il dire qu'on ne peut pas être célibataire? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Je ne sais pas si cette personne que je vois à mon église est faite pour moi. Elle est différente de moi. On va en parler de ça. Il semble que le Seigneur me parle. Donc, voici quelques-unes des questions que vous avez adressées. Et je vais essayer d'y répondre. Sinon, on y revient à la fin. Gênez-vous pas pour poser des questions. Ce que j'aimerais faire aussi, oui, notre chronomètre fidèle, faudrait garder un 10-15 minutes à la fin pour une application, un temps d'application, non seulement pour cette session-là, mais j'aimerais qu'on réfléchisse sur tout ce qu'on a vu. Exode 33, Philippiens, l'écoute de Dieu, le travail, le conjoint, l'argent. J'aimerais qu'on prenne un temps là, pour vraiment réfléchir. On repart avec quoi dans nos poches? Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit en fin de semaine? Qu'est-ce qu'on veut mettre en application? Sinon, on est des auditeurs oublieux. Ça vaut ce que le Seigneur dit que ça vaut. Donc, un mot sur le célibat. Jésus était célibataire, probablement Paul. Il faut dire dans notre société hypersexualité qu'on n'a pas besoin de relations sexuelles aujourd'hui pour être une personne complète. Il faut le dire, parce qu'on vit tellement, je trouve, dans ce monde-là hypersexualisé, où on dirait que si tu veux vivre, toi, ta vie dans le célibat, ou si en ce moment tu n'as pas de conjoint, tu es un être de seconde génération, tu es incomplet. C'est faux. C'est faux. On peut vivre ses besoins émotionnels d'une autre façon que par la relation sexuelle. La communauté, par exemple, a été donnée aussi à chaque être humain pour qu'on puisse établir des relations significatives, qu'on puisse développer cet exercice d'écoute, d'aimer et d'être aimé, même si tu n'as pas un conjoint. Donc, je trouvais ça important de faire cette mise au point. On a ce texte dans 1 Corinthiens 7,6 où Paul parle d'un don. Il dit « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. » Et là, il continue, il dit « À ceux qui ne sont pas mariés, aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. » Donc, Paul semble avoir qu'il avait ce don. Peut-être qu'il a été marié à un moment donné, je ne suis pas certain. Il n'était plus au moment où il a écrit ce texte-là. Mais peu importe, il y a une place pour être avec un partenaire et il y a une place aussi pour être sans partenaire, tout dépendant de l'appel que Dieu met sur votre vie. S'il manque de maîtrise, par contre, ça c'est le contexte de Corinthiens 7, s'il manque de maîtrise sexuelle, qu'il se marie. Donc, peut-être que tu as le don. Si tu as le don, la maîtrise devrait venir avec, parce que si tu n'as pas de maîtrise, marie-toi. L'idée, c'est d'éviter la débauche. Donc, ça c'est le contexte. Je voulais partir avec ça ce matin. Pour être sûr que ceux qui ne sont pas dans la recherche d'un conjoint ou qui voient peut-être que le célibat est une porte qui s'ouvre à eux, que vous vous sentiez correct dans ce choix-là, compris. OK? Aujourd'hui, on parle un petit peu plus du choix du conjoint, mais si ça s'adresse moins à vous en ce moment ou pas à vous du tout dans votre vie, je veux que vous vous sentiez bien ce matin. Amen. Est-ce que vous croyez ça, vous, que dans la volonté parfaite de Dieu, crois-tu qu'il te faut trouver la seule personne que Dieu a préparée pour toi? T'es faite! Il n'y a plus d'espoir pour toi! C'est le don de célibat qui se confirme. Parce que ta seule option a disparu de la planète. Je parle de ça parce que c'est une théologie, une philosophie que je rencontre parfois où des gens disent ah, il n'a qu'une seule volonté parfaite pour moi. Là. On est 7 milliards sur la Terre, donc il y a peut-être la moitié d'hommes, la moitié de femmes. Puis là, il faut que je trouve la personne que Dieu a prévue pour moi dans ces 3,5 milliards. Je crois pas ça. Je crois pas ça honnêtement. Je suis marié à ma femme depuis 27, pratiquement 28. Est-ce que ça veut dire que j'aurais pas pu me marier avec une autre personne et être heureux? Non. Là, je me suis fait avoir solide. Elle répond avant moi. Bonjour. Mon point est fait. J'aimerais ça qu'on s'arrête à ça. Quels étaient, quels sont, ou quels seraient tes critères dans le choix d'un conjoint? Donc, je vais vous demander de prendre un papier, un crayon, puis on va prendre 2-3 minutes pour penser à ça. Je dis le verbe au passé, au présent ou au futur parce que je connais pas votre situation, mais c'est important de s'arrêter à ça. Okay? Donc, je vous laisse 2 minutes. Si vous êtes déjà marié, bien, c'est quels étaient vos critères avant de rencontrer votre conjoint? Si vous êtes dans cette recherche-là en ce moment, quels sont vos critères? Puis si vous dites, je suis pas là pantoute, les gars, c'est quoi ça, cette bébête-là? Ça me tente pas pantoute. Je suis pas intéressé. Mais peut-être qu'un jour, ça pourrait revenir sur votre cœur, donc c'est quand même bon de se préparer. Donc, je vous laisse 2 minutes. On répond à ça personnellement. Si vous manquez de papier, on en a d'autres en avant. Il me semble que les femmes écrivent plus que les hommes. Là.
Sauf que l'eau, c'est plus profond. Ah!
Avez-vous besoin de plus de temps ou c'est pas... Bon, on continue. Est-ce que quelqu'un aimerait exprimer ses critères à voix haute pour le bénéfice du groupe? Vas-y.
Alors, j'aimerais un homme qui aime d'abord le Seigneur de toutes ses forces, qui soit responsable, honnête, qui m'accepte comme je suis et aimant.
Aimant?
Oui, aimant.
Est-ce que je passerai la parole à un homme à ce point-ci? Est-ce qu'il y a un garçon qui... Oui. Bill?
Bon, une personne qui peut s'appliquer par rapport à ses voyages pour
Ça va bien?
Non, j'ai le premier point, c'est ce qu'elle a scrit. C'est le premier point, c'était une personne qui a tant que soif de marcher avec Dieu tout le reste de sa vie.
OK. T'essayes de te racheter ou... Merci à nos deux courageux. Je cherchais une grande blonde aux yeux bleus. Pourquoi je vous dis ça? Vos critères de départ et ce que Dieu a en réserve pour vous, c'est peut-être différent. Saint pieds 1, les yeux bruns. Mais c'est la femme que Dieu avait préparée pour moi. On est heureux, on s'aime. Ça n'a pas toujours été facile. Je vous en glisserai un mot tantôt, mais c'est la femme que Dieu... J'aurais pas pu être mieux marié. Donc, c'est le fun des critères que vous mettez. Faut qu'il y ait une flexibilité là-dedans. Continuez à être à l'écoute de Dieu dans ses critères. Voici les critères de ma fille, Andréane, qui a 19 ans, qui cherche un conjoint. Quelqu'un qui va aimer Dieu plus que moi. Quand elle m'a donné sa liste, wow, je croyais pas ça. Je trouvais ça profond. Quelqu'un qui va aimer Dieu plus que moi. Quelqu'un qui va avoir de l'humour. Quelqu'un qui va respecter les arts parce qu'elle étudie dans les arts. Donc, ça te prend quand même un certain niveau de compatibilité. Quelqu'un qui va être à l'écoute. Intéressant. Je vous en donne trois comme ça, okay, pour vous mettre des idées. Voici les critères de mon fils, Michael, qui vient de se fiancer, qui va se marier probablement cet été. On n'a pas la date encore. Un autre qui dit « aimer Dieu plus que moi », les deux m'ont vraiment surpris, mes enfants. Wow! Je suis impressionné par leur maturité. Il ne veut pas de quelqu'un qui va dire « je ne serai rien sans toi, là, tous mes besoins émotionnels vont être comblés en toi, là, j'ai besoin de toi. » Non, quelqu'un qui est capable de vivre tout seul un peu, là. Hein? C'est pas un dépendant affectif, là. Tu veux quelqu'un quand même de mature. Parce que qu'est-ce que ça dit dans Genèse? L'homme quittera son père, sa mère. Donc, tu veux qu'il y ait cette coupure. Tu veux quelqu'un qui a fait cette coupure-là, qui est devenu mature, indépendant, autonome. Donc, une personne qui est capable d'être heureuse seule. Des fois, on a des jeunes dans notre église et puis... Ils cassent avec un le vendredi, puis le lundi, ils sont avec un autre. Es-tu capable de vivre seul un petit peu? où tu dois absolument être avec quelqu'un parce que tu n'es pas capable de vivre ta solitude. Il faut apprendre à être capable de vivre dans cette solitude-là. Dieu peut nous parler dans notre solitude, dans notre désert. Puis si tu essaies de combler ça tout le temps, tu manques quelque chose. Il faut se rendre compte que Jésus a été appelé au désert et il y a bien des hommes de Dieu qui ont été appelés dans des déserts aussi. Hein? Et Dieu forme dans le désert. Donc, embrassons des fois cette période de désert. Je nous invite à la souffrance, hein, c'est beau. Aimer Dieu plus que moi, qu'est-ce que tu veux dire? Okay. Donc, il y a un risque d'être oublié dans le tableau, tu veux dire? Je pense à ce passage où Jésus dit ben, si pour me suivre, il faut que tu aimes plus, faut que tu m'aimes plus moi que tes enfants, tes parents, ta vie. Donc je pense que c'est dans ce sens-là que ça a été écrit. Mais si aimer Dieu puis tu t'occupes pas de ta femme, ben t'aimes pas vraiment Dieu. Marie? Marie, une dernière question.
Plus tu vas te rapprocher de Dieu, plus Dieu va te faire rapprocher des gens. Parce que Dieu a le cœur pour les gens. Donc, c'est comme une personne qui va dire, non, mais la famille ou le ministère. Mais Dieu, si tu vas vers lui, il va te ramener vers les gens.
Okay. Sinon, il y a un manque d'équilibre ou il y a quelque chose que...
Il va te donner ce qui va être vraiment nécessaire pour que ça pouvoir aimer les gens avec qui tu es.
Michael était attiré par la joie de vivre, par son amour des enfants, par sa relation avec Dieu, etc. Et puis, Catherine, sa conjointe, qui va être à méchante liste, hein? Elle voulait quelqu'un d'authentique. Et ça, elle a écrit ça avant qu'elle rencontre Michael. Elle voulait quelqu'un d'authentique, présent pour moi, rempli de nouveaux projets, attentionné, encourageant, l'amour des gens, désir de servir, quelqu'un qui a de l'écoute, de la fidélité, la famille et l'amour des enfants, c'est important, quelqu'un qui m'inspire, qui me donne de la joie, que Dieu est sa priorité, qui va faire des études bibliques avec moi, qui a un intérêt culturel, qui aime la nature, qui sait prendre les choses en main et qui sait prendre soin de moi. Est-ce que cet homme existe sur la terre? Je ne suis pas sûr que Jésus remplirait tout ça. Puis finalement, elle a rencontré Michael, puis il y avait comme le trois quarts de ces points-là qu'elle a trouvé. Fait que c'était un bon match. Mais il faut faire attention avec les listes longues comme ça. Là. Sinon, on commence avec 3,5 milliards, puis à la fin, il en reste deux. Puis ils sont de l'autre côté de la planète. Vous pensez au mariage, vous pensez à un conjoint, c'est quoi les versets qui vous viennent en tête là, qui sont le fondement du mariage? Là, vous allez où dans la Bible pour vous éclairer? Genèse 2, tout à fait. Genèse 2, puis je vais vous l'afficher ici, Genèse 2. Éphésiens 5 aussi. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis, son égal. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prend de ses côtes et referme sa chair. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme. Il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Ha! Enfin! » Non, mais il faut se mettre dans le contexte. Tout ce qu'il avait vu avant, c'était des gorilles, des éléphants, des girafes. Et là, Dieu lui présente une femme. Wouhou! Intéressant. Voici cette fois. celle qui est faite de mes mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme, Isha, parce qu'elle a été tirée de l'homme, Ish, deux petits mots hébreux. Et le bébé s'appelle Ishi. C'est une joke québécoise, excusez. Excusez-la. Le verset principal, il y a trois étapes là-dedans. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Oh, j'ai perdu le avec ma joke déplacée, là, j'ai perdu le contrôle. Il y a trois étapes là-dedans. L'homme quitte son père et sa mère. Donc, ça montre une autonomie, ça montre quelqu'un qui est responsable, quelqu'un qui est capable de vivre par lui-même. Après ça, il s'attache à sa femme. Deuxième étape. Puis l'attachement, là, c'est vraiment, en anglais, c'est « to cling », c'est solide. C'est comme quand tu colles deux feuilles de papier une sur l'autre, tu viens pour les séparer, puis c'est pas possible. Ça va se déchirer. Donc, c'est la deuxième étape à laquelle on est appelé, s'attacher. Et ils ne feront qu'un. On comprend certainement la relation sexuelle dans cette troisième étape, mais c'est une unité qui dépasse l'aspect physique. C'est une unité émotionnelle, spirituelle, etc. C'est important, ces trois étapes. Et dans notre société, on couche ensemble puis on se demande comment on s'appelle le lendemain matin. Donc, ça n'a pas bien d'allure. On renverse l'ordre dans lequel c'est supposé d'être donné. Et ces étapes-là sont importantes. Je deviens autonome, je suis capable de m'occuper de moi-même, je m'attache et après ça, on ne fait qu'un. Ça, c'est un verset fondamental et on le retrouve aussi, le même verset dans Éphésiens. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Wow! En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin. Hein? On a tous déjeuné ce matin, on a tous été se coucher hier soir, on a tous pris soin de notre corps. C'est l'analogie qui est donnée. Aimer sa femme comme son propre corps. Tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Voici notre verset de Genèse qui revient, qui est cité dans l'argumentation de Paul. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, parce que le mariage est une représentation de ce qui se passe entre Dieu et son Église. Donc l'union entre l'homme et la femme est une représentation de quelque chose de plus grand entre le Christ et son Église. Donc c'est important qu'on reste unis, moi et Joanne, parce qu'on est un modèle de ce qui se passe ailleurs. On est un modèle de ce qui se passe entre le Christ et son Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme. Ici, le verset 33 est un verset résumé de tout ce chapitre-là où on parle de la soumission de la femme. Donc, le verset 33 est comme un verset résumé. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Ça, c'est les versets fondamentaux pour le mariage. Pourquoi vous pensez que ce n'est pas le même commandement qui est donné aux deux? Hey! Un homme qui sait reconnaître ses limites, j'aime ça. Uh-huh. Un dernier commentaire, Jonathan. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Mm-hmm. La question de dominer, puis etc. Là. Oui, tout à fait. Oui. Oui. Moi, ma compréhension de ce verset-là, pourquoi le commandement est différent pour l'homme et la femme, c'est que pour ma femme, ce qu'elle a besoin de savoir, c'est qu'elle est la seule pour moi. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre sur le radar, là. Il y en a juste une, c'est elle. C'est ce qu'elle a besoin d'entendre de ma bouche. Qu'elle est la seule, puis elle va toujours être la seule. Moi, ce que j'ai besoin d'entendre de sa bouche, c'est qu'elle m'estime, qu'elle m'honore, qu'elle dise du bien de moi. C'est ça qui me nourrit dans mon âme. Je pense qu'on n'a pas les mêmes besoins comme homme et comme femme, et Dieu, dans sa sagesse, nous donne des commandements justement pour adresser le besoin de l'autre. C'est comme ça que je le comprends. Je suis peut-être dans le champ. Je suis un bon champ. Le mariage est une pure folie. Aïe, aïe, aïe. C'est dur, le mariage. C'est pas facile. C'est quoi l'idée de Dieu de mettre deux êtres complètement différents puis dire, hey, vous autres, là, vous allez vous unir puis vous allez passer le reste de votre vie ensemble? Dieu fumait du bon pot, je sais pas, là, mais... C'est moi qui ai le pocheur illégal, oui, c'est ça. En fait, le mariage est la plus grande opportunité que vous allez avoir de vous dépasser. Je vais donner des exemples. C'est un plus grand dépassement pour moi que quelqu'un qui monte l'Everest, qui se rend aux Olympiques ou qui traverse l'océan en nage ou en bateau tout seul. Pour moi, le mariage, c'est une opportunité de dépassement. Parce que tu es confronté là, dans tes limites d'aimer solides. Parce que l'autre est différent de toi. Quelques définitions humoristiques. Définition militaire, c'est la seule guerre où l'on dort avec l'ennemi. Je voulais vous faire rire un petit peu, c'est un sujet quand même chargé. Là, donc, une définition philosophique, sert à résoudre à deux des problèmes qu'on n'aurait jamais eu tout seul. Définition mathématique, somme d'emmerdre, soustraction de liberté, multiplication de responsabilités et division de biens. Donc, vous allez sur l'Internet, là, il y en a des listes. Là, c'est ça rend la thématique un peu plus légère. Différent, tu dis. Hommes et femmes. Oui, je vais vous ouvrir mon cœur un peu. Si on rouvre le cerveau d'une femme, ça va ressembler à un plat de spaghetti. Si on rouvre le cerveau d'un homme, ça va ressembler à plein de petits tiroirs. Puis quand tu rouvres un tiroir, ben t'en rouvres juste un à la fois. Tu le fermes, puis t'en rouvres un autre. La femme, elle s'est toute mélangée. Tout se touche. Peut-être. C'est des généralisations, là, mais c'est pour faire comprendre à quel point on est différent en tant qu'homme et en tant que femme. Et que Dieu nous demande, dans le mariage, de s'unir, de s'attacher, malgré ces différences-là. Ça prend des efforts, ça prend des compromis. C'est pas nécessairement toujours facile. Les petits tiroirs. Ils sont chicanés le matin, ferment le petit tiroir. Il a quand même le goût le soir de faire l'amour, lui. Parce que les petits tiroirs, ils ne se parlent pas. La femme, elle, c'est un plat de spaghetti, tout se touche. Tu m'as dit une bêtise le matin, hey, mon s'il vous plaît. Si tu penses à soi qu'il va se passer quelque chose, c'est différent, l'homme et la femme. ISTJ, NFFP, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça, c'est du Myers-Briggs, c'est des tests de personnalité. J'ai eu l'occasion de le faire à notre église. À un moment donné, on a fait venir un facilitateur, puis on faisait ça en tant qu'église. Puis je l'ai refait aussi 2-3 fois dans le cadre de ma carrière. Donc, moi, je suis un ISTJ, donc un introverti qui utilise surtout ses sens pour analyser ce qui se passe, qui aime réfléchir et qui aime l'ordre et la discipline. Ma femme est l'opposé de moi. Elle est extrovertie. Elle va utiliser plus l'intuition plutôt que les sens pour interpréter le monde. Okay? Elle va utiliser plus dans ses feelings, c'est plus au niveau de ses émotions plutôt qu'au niveau de sa réflexion que ça se passe. Et elle va préférer la spontanéité, la liberté. Wow! Ça fait 28 ans qu'on est mariés. Des défis? On est différents en partant des petits tiroirs, du spaghetti l'autre bord. Puis en plus, en personnalité, on est à l'opposé. Ça fait des crises, ça. On en a vécu. Quelle année qu'on est revenu au Québec? 2005-2006, on a vécu une crise. À un moment donné, on était l'un devant l'autre, puis on se disait, on est tellement différents. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Puis l'option du divorce a traversé notre esprit. Mais là, t'es chrétien. T'es même pas supposé d'y penser, mais ça vient pareil dans ta tête. Puis on a décidé de le laisser venir quand même dans notre tête. Pour pas faire comme si on n'y pensait pas. On voulait être authentique. On voulait pas jouer à l'autruche. C'était épeurant. On se sentait comme... Tu étais sur le bord d'un précipice, là, puis il vente un peu, là. On se sentait comme ça, littéralement. Puis finalement, on a passé au travers. Tu veux-tu rajouter des choses? l'argent. L'argent a été une source de conflit dans notre couple. Probablement la plus grande. C'est important. C'est une des sources de divorce, même la plus fréquente, l'argent. La sexualité aussi sera peut-être une deuxième raison assez fréquente. Ça prend beaucoup de respect, en fait. Puis le respect, ça veut dire que l'autre voit les choses différemment de toi, et c'est correct. Ça veut pas dire que tu as raison. Puis ceux qui pensent être en couple, ou si vous êtes en couple, ou comme mon fils Michael qui se prépare à un mariage, c'est important de discuter ces choses-là, même avant de s'engager. L'argent, OK, tu veux gagner combien, tu veux donner combien, comment tu vas gérer ça, c'est quoi ta philosophie par rapport aux dépenses, aux dons, faut tout jaser ça avant. Parce que sur le tas, c'est plus tough. Comme application, comment est-ce qu'il nous reste de temps, monsieur? Parfait, on n'est pas en plein dans notre temps. J'aimerais ça qu'on prenne un 5 minutes pour ce thème-là. Faire confiance à Dieu. Vous êtes seul, vous cherchez, il n'y a personne qui se présente à vous autres. Les seuls gars qu'il y a autour de vous, c'est des caves. Hein, je l'entends, je l'entends. Là. Je vous dis les choses comme je les entends. Là. Les groupes jeunesse là, à notre église, là, où les, ils sont tous immatures, non. Donc, il faut faire confiance à Dieu là-dedans. Il faut s'en remettre à Dieu. Il ne faut pas être pressé. Il faut avoir de bons critères. Il faut s'attendre aux différences. Je vous le dis, il va en avoir. Il faut s'attendre aux différences. Puis dans votre recherche de la volonté de Dieu, le V de D, là, c'est mon petit acronyme pour volonté de Dieu, bien, il faut que vos filtres soient en accord avec la parole de Dieu. J'en ai parlé plus tôt. Demandez l'avis aussi de 2-3 personnes de confiance quand vous recherchez un conjoint. Puis il faut que ça vous amène une paix intérieure. C'est les 3 critères. Je vous donne 5 minutes pour réfléchir à cet aspect-là de conjoint. Puis après ça, on va se donner 10 minutes pour réfléchir aux autres thèmes. Puis si vous n'avez trop de 5 minutes, bien, commencez à faire les autres thèmes tout de suite. Parce que je veux qu'on sorte d'ici avec des choses concrètes qui vont nous poursuivre dans les prochains jours, mois, années. C'est bon? OK. Donc, que le Saint-Esprit vous dirige. Je vais prier. Seigneur, on fait appel à toi. Tu nous as parlé en fin de semaine de différentes façons, à travers l'enseignement, à travers les chants, à travers les communications, les échanges avec d'autres personnes, des amis, le staff, etc., à travers la nature. Seigneur, tu peux te révéler à nous de différentes façons. Je demande que ton Saint-Esprit vienne rappeler tout ça, ramener tout ça à notre mémoire en ce moment. Et nous aider à répondre à la question « Comment je vais mettre ça en pratique maintenant, Seigneur, dans ma vie? » Viens nous aider. Amen.